Laissez-vous parler par la parole du Seigneur en musique, par nos exhortations, nos enseignements, nos prédications ainsi que les témoignages vivants. Vous êtes à l'écoute de la radio Adoration, la radio qui ensoleille vos cœurs.
Bonjour à tous, auditeurs et auditrices de la radio Adoration. Bienvenue sur cette deuxième émission du mois de janvier 2021 pour la radio Adoration et également pour l'édification de votre âme. Merci d'être connecté encore une fois sur ce message. Un message qui est cher à mon cœur, un message d'encouragement, un message d'exhortation et également un enseignement au travers les événements qui se passent versus ce qui a été déjà prophétisé. Également un recul et un regard au travers ce que la Bible nous parlait déjà dans le passé. Alors, si vous entendez des bruits derrière moi, ne soyez pas surpris. Cet enregistrement est fait directement à partir de mon habitation en Haïti. Vous savez qu'ici en Haïti, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de bruit, beaucoup de motos, beaucoup de toutes sortes de choses. Donc, ce que vous entendez derrière moi, eh bien, c'est tout simplement la vie. Mais tout de même, ici, les gens se portent bien et je tiens à rassurer ceux qui nous écoutent. Dieu est avec nous parce que Haïti est un peuple consacré à Dieu. Il y a bien sûr la magie, il y a bien sûr le vaudou, tout ça, mais la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et justement, ici, malgré qu'il y a le mal qui est très répandu, il y a aussi l'évangile et la puissance de la parole, la puissance et l'onction de Dieu qui est tout partout sur Haïti. Sinon, s'il n'y avait pas ça, Haïti serait écrasé depuis très longtemps. Et je vous prie de retenir ces dernières paroles que je viens de vous dire. Vous allez comprendre peut-être plus facilement, plus rapidement, plus précisément la raison, le motif, la texture de cette prédication d'aujourd'hui qui parle de confinement. Et oui, vous savez que ça fait exactement un an, jour pour jour, le 25 janvier, que le coronavirus a commencé à créer ses première victime, du moins au Québec. Alors, on ne peut pas parler de cette année sans parler de toutes les règles sanitaires, toutes les contraintes, tous les règlements, toutes les lois, dont le confinement qui a été imposé, ça serait impossible. Alors, prenons le temps de confinement pour prendre un recul sur notre vie, remettre en question nos priorités, réaliser nos valeurs. Jésus nous a donné un exemple parfait à suivre quand il était homme sur la terre. Est-ce que ma vie reflète sa vie? Ça, c'est la première question que n'importe quel chrétien doit se poser. Est-ce que ma vie reflète sa vie? Toi qui présentement entends ce message, est-ce que ta vie reflète la vie de Jésus? L'autre question, est-ce que mes valeurs dans ma vie sont comme celles que Jésus nous a enseignées? Voilà une autre question très importante. Est-ce que mes valeurs dans ma vie sont comme celles que Jésus nous a enseignées? Alors, prenez le temps, prenons le temps pour apprendre sur la vie de Jésus. D'abord, on ne peut pas connaître Jésus, on ne peut pas connaître l'Évangile sans lire sa parole. Passer du temps seul avec lui dans la prière. Simplement à l'écouter, parfois juste faire silence. Il y a des moments dans la vie où est-ce que on a beau vouloir prier et ça m'arrive. On a beau vouloir prier, on a beau vouloir parler au Seigneur, mais il n'y a rien qui sort, ça ne veut pas. On essaie de prier, puis c'est vraiment, on a l'impression vraiment de rabâcher des paroles inutiles, tout ça. Pourtant, Dieu entend pareil. Mais dans ce temps, il s'agit simplement de faire silence devant Dieu, comme si nous étions assis sur une montagne, seuls, en regardant l'horizon, et qu'on écoute ce qui nous entoure. On fait silence devant Dieu, dans ce temps, pour l'écouter, pour entendre ses paroles, une petite voix peut-être, une seule parole qu'il nous dira dans l'oreille pour nous dire « Rassure-toi, je suis là, je suis avec toi ». L'importance de la prière, eh bien, c'est que la prière, c'est notre nourriture. La prière, c'est ce qui apporte les vitamines, les minéraux qui nous manquent, justement, à ce repas principal. Parce que la parole, on peut la lire et la comprendre de telle façon, mais la prière, elle, va nous confirmer la parole. Et c'est alors qu'entrent en jeu les vitamines et les minéraux dont je vous parle. Alors la prière est essentielle pour notre survie, la prière est essentielle pour notre compréhension des choses qui se passent, pour entendre Dieu nous répondre sur les questions que nous avons à lui poser en ces temps de pandémie, de confinement. Je sais, il y a des gens qui vont dire « c'est pas vrai, c'est faux, c'est programmé ». Bon, j'ai arrêté de perdre mon temps avec ces gens, c'est inutile, ces gens sont perdus, égarés. Reste quoi? Reste à prier pour ces personnes-là. Alors, la prière qui nous nourrit doit aussi nourrir les autres. Alors, il est important de prier pour votre famille, vos amis. Priez pour ceux qui nous dirigent, les dirigeants de nos pays, les politiciens, les maires de nos municipalités, les organisations, les gens qui travaillent dans des organismes, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, les médecins, les infirmières, les ambulanciers, les autres dans les cliniques, les travailleurs dans les chaînes alimentaires, dans les chaînes d'approvisionnement essentielles, pour leur protection, pour continuer à remplir nos besoins essentiels. Du moins, je vais revenir plus tard, parce que vous allez voir que nos priorités avec ce qui se passe ont changé, et c'est pour une raison bien simple qu'elles ont changé. Nous allons y revenir plus tard. Dieu nous donne ce temps de pandémie, je devrais dire plutôt, Dieu nous donne ce temps de grâce pour se rapprocher de lui. Vous allez dire maintenant, mais ça va pas ta tête, un temps de grâce, la pandémie, tout le monde souffre, tout le monde est malade, tout le monde est confiné, personne ne peut sortir, personne ne peut rien faire, personne ne peut rien dire, au risque de se faire arrêter, incarcérer dans certains pays, de payer l'amende. On peut même plus sortir pour acheter ce qu'on veut, etc., 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 etc. Mais moi, je vous dis que c'est à vous de choisir ce que vous faites avec ce temps. Le temps que Dieu vous donne en ce moment, vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, vous êtes enfermé. Dieu a mis une parenthèse sur le monde. Il a mis le monde entier dans une parenthèse pour dire aux gens, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre et sur toutes les nations. Et il nous demande de tourner nos regards vers lui. Non pas vers le monde, vers ce qui se passe. Non pas vers les difficultés, les aspects négatifs, mais bien d'y voir les aspects positifs. Et le positif dans ça, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui sauve. Alors Dieu nous donne ce temps de grâce, oui je le répète, ce temps de grâce pour se rapprocher de lui. À nous de choisir ce que nous faisons avec ce temps. Hébreux 3,15 a dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Alors si vous regardez ce qui se passe actuellement, eh bien, des révoltes, ils commencent à en avoir parce que les gens sont à bout. Les gens sont à bout de tout ce qui se passe. Mais vous savez que il y a 8 personnes, il y a peut-être de ça, peut-être 3000 ans, 8 personnes qui ont été confinées pendant 14 mois. Vous savez, dans l'Arche de Noé, eh bien, ils étaient seulement 8 avec des animaux. Dieu a sauvé seulement ces 8 personnes à cette époque. À cause de quoi? À cause de la désobéissance et du péché des générations précédentes. Dieu veut vous sauver tous en ce moment. Dieu veut sauver tous ses enfants, toi, ta famille, tes connaissances, tes amis. 1 Timothée 2, verset 4 dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et la connaissance de la vérité, c'est Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et oui, Noé et sa famille ont été confinés dans l'arche pendant près de 14 mois, sans sortir, entourés d'eau, d'animaux, de puanteurs, d'excréments, de cris de toutes sortes, de brêlements, de jappements, de beuglements, de... Bon, je ne peux pas tout nommer. Est-ce que vous imaginez un peu la difficulté de ne pas savoir lorsqu'ils pourront remettre pied sur terre? L'Éternel a dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé avait alors 600 ans lorsque le déluge fut sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, en ce jour-là, les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Mais avant ça, pendant les 100 années précédentes, lors de la construction de l'arche, Noé disait à tout le monde, « Repentez-vous, préparez-vous, car il y aura un déluge. » Et tout le monde disait, tout le monde le traitait de fou, d'imbécile, d'illuminé, lui disant de les laisser tranquilles. Eux, tout ce dont ils pensaient, c'était d'avoir du plaisir, de se marier, de manger, de danser, de rigoler. Est-ce que ça vous ne rappelle pas quelqu'un? La pluie tomba sur terre 40 jours et 40 nuits. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours et demeurèrent donc 14 mois sur la terre, soit l'équivalent de 426 jours. Alors Dieu parla à Noé le 426e jour en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. » Vous allez retrouver toutes ces informations dans Genèse 7 et 8. Songez un peu encore à Noé et les 14 mois dans l'arche. Dès le premier jour de confinement, et là je parle de notre confinement à nous, à notre époque, les gens ont commencé à se questionner. Les gens ont commencé à craindre, à stresser, à développer de l'anxiété, à avoir le cœur sur le point d'exploser en larmes, même que peut-être plusieurs, leur cœur a explosé maintenant, demandant à Dieu, païen comme chrétien, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Je vais y revenir avec des citations bibliques vers la fin du message. Mais la réponse est très simple. Moi, pour moi, dans mon esprit, lorsque ces choses sont arrivées, je me suis dit, oh, il y a quelque chose de pas normal, il y a quelque chose de céleste, quelque chose de divin dans ce qui se passe. Dieu veut nous parler. Et c'est exactement ça que Dieu fait. La réponse en mon cœur fut rapide. Ce qui arrive est pour souffler un vent d'appel à la repentance sur toute la terre avant de fermer définitivement la porte de mon royaume.
Vous êtes à l'écoute de la radio Adoration, la radio qui ensoleille vos cœurs.
Oh, becoming more like Jesus feels like dying deep inside. And sometimes I guess that's truly what it is. Cause he's calling me to lay aside my selfishness and pride, so he can mold my heart and make it more like his. And lately I've been seeing more each day, wisdom and new wonders of His grace. Just as I am, I ran to Him and mercy took me in. Just as I am, and He forgave my sin. All the way He's changed clay within the potter's skillful hands. Even though the changes sometimes frighten me, oh, I want the truth of His word to keep shaping who I am. 'Cause I know that He does all things perfectly, and all my thoughts and all my attitudes, they're all His to change as He wants to.
Fermer définitivement la porte de mon royaume. Une petite parenthèse ici qui n'était pas prévue au texte. Vous savez que dans Apocalypse, dans l'Lettre aux sept églises, les sept églises, ce sont nous les chrétiens. Cinq églises sur sept reçoivent des reproches de la part de Jésus lui-même, qui dit « Voici ce que j'ai contre toi ». Faites vos recherches, allez dans Apocalypse. Lettre aux sept églises. À chaque fois, ces cinq églises subissent un reproche quelconque. Et Jésus leur dit, « Repens-toi, détourne-toi de tes mauvaises voies. Reviens à ton premier amour. Sinon, je te retirerai ton chandelier pour le donner à un autre. » Pourquoi l'Église, Seigneur? Pourquoi l'Église? La raison est simple. L'Église a abandonné son premier amour. L'Église s'est éloignée de l'Évangile véritable. L'Église s'est éloignée de Dieu. L'Église, maintenant, de nos jours, a appris à vivre d'arrogance, d'orgueil dans le péché. Pourquoi? Parce que les portes des églises ont laissé entrer le péché entre leurs murs. Et donc, par conséquent, les chrétiens eux-mêmes ont été contaminés, comme le coronavirus. Alors, ce que Dieu dit dans ça, Dieu appelle son peuple à se sanctifier. Il est écrit dans la Bible, « Cherchez d'abord la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Dieu veut un peuple sanctifié, consacré, une épouse sainte, pure et sans tache. Il dit, je reviens bientôt, mais j'attends encore certaines brebis perdues, car il y a encore des appelés, mais toutes ne répondront pas à cet appel. Jésus a dit, vais-je trouver la foi lorsque je reviendrai sur terre? Je vais revenir à ce segment, tout à l'heure vers la fin, avec les Écritures, et vous allez comprendre l'essentiel de la texture et des paroles que je vous raconte en ce moment. Vous allez dire, oui, mais nous prions. Nous prions, nous faisons du bien, nous donnons aux pauvres, nous faisons ceci, nous faisons cela. Vous priez pour quoi, au juste? Comme plusieurs, et moi-même, la plupart de nos prières, c'est souvent pour nous-mêmes. Nous prions pour notre corps. Nous prions pour sauver nos vies. Mais nous ne prions pas pour le salut de notre âme. Parce que pour plusieurs, le salut de leur âme est acquis. Le salut de leur âme, il est là, c'est fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, je peux vivre. Alors que l'apôtre Paul a dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Je sais, il y a des gens qui vont dire « Le salut, c'est gratuit, on ne peut pas perdre notre salut. » On ne va pas commencer à discuter sur ça. Ce que je vous cite provient des Évangiles. Ce que je vous cite est vérifiable et vérifié. Si l'apôtre Paul a dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », c'est comme une personne, c'est comme un médecin ou un entraîneur qui vous dit « Entraînez votre corps chaque jour, allez marcher 30 minutes à chaque jour pour augmenter vos capacités cardiovasculaires, vos muscles, votre intellect et tout le reste. » C'est la même chose. On ne peut pas s'asseoir dans la maison et dire « Je suis en forme, je me suis exercé l'an passé et maintenant c'est fini, j'ai pas besoin. » Alors le salut, c'est la même chose. Vous priez pour votre corps, pour sauver vos vies. Vous ne priez pas pour le salut de votre âme, mais vous priez pour satisfaire vos propres passions, comme nous dit l'apôtre Jacques. Vos besoins. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Vous priez, vous n'obtenez rien, parce que vous priez mal. Votre vie ici-bas aurait-elle plus d'importance que le salut de votre âme? Vos besoins matériels, vos besoins émotifs, vos besoins physiques, aurait-il plus d'importance que le salut de votre âme et le salut de l'âme de ceux que vous aimez et même de vos ennemis? La Bible nous dit dans Ésaïe 58, et j'adore ce passage, mais je vais vous en citer seulement qu'un bout. Ne vous ai-je pas dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra? Ne vous ai-je pas enseigné quel était le jeûne auquel je prends plaisir? Ésaïe 58. Allez lire Ésaïe 58. Plusieurs personnes dans ça vont être étonnées. Parce que la majorité d'entre nous n'exerçons pas 25% de ce qui est écrit dans le jeûne agréable. Au travers de ce qui se passe actuellement, Dieu nous dit, je vous ai accordé un sursis, mais il sera de courte durée. Encore une fois, dans les textes qui viendront dans quelques instants, vous allez comprendre. Le confinement, votre confinement, mon confinement, notre confinement. Un sursis qui sera de courte durée. Ce confinement afin que vous vous remettiez en question, que vous étudiez ma parole, que vous preniez du temps avec moi et que vous cherchiez à faire la paix, autant que cela dépende de vous avec toutes les personnes que vous avez négligées, ignorées, rejetées, humiliés, salis par vos mauvaises paroles avec lesquelles vous vous êtes brouillés et fâchés. Vous savez, lorsque ces choses sont arrivées, le confinement, le coronavirus au départ, moi, dès le départ, je savais que tout ça provenait de notre péché, notre désobéissance. Le problème avec le péché parmi les êtres humains, parmi les chrétiens, c'est que les gens voient le péché comme étant des choses concrètes, tangibles. Tu as tué une personne, tu as péché. Tu commets l'adultère avec une autre personne avec laquelle tu n'es pas marié, tu commets le péché. Tu consommes de la drogue, tu as péché. Tu as bu de l'alcool, tu as péché. Tu fumes, tu as péché. Etc., 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 etc. Mais les gens ne prennent pas conscience ou ne veulent pas prendre conscience de l'état intérieur de leur esprit, de leur âme. Le péché des pensées, le péché des regards, des réactions, des actions, des réactions, de nos paroles, la portée de nos paroles. Par notre langue, nous bénissons, par notre langue, nous maudissons. Par nos paroles, nous serons jugés, par nos paroles, nous serons condamnés, par nos paroles, nous serons également justifiés. Les gens ne prennent pas conscience à quel point nous péchons à chaque instant, sans nous en rendre compte. Et parfois, on s'en rend compte, mais c'est tellement rendu banal dans nos vies que nous n'osons même pas descendre sur nos genoux pour demander à Dieu pardon. Et c'est là, ce sont ces péchés-là que Dieu veut que nous réalisions qui sont dans nos vies. Il n'y a pas de gros péchés, de petits péchés, il n'y a que le péché. Sachez que ces mêmes personnes que vous avez négligé, ignoré, rejeté, humilié, sali par vos mauvaises paroles et avec lesquelles vous vous êtes brouillé et fâché, eh bien, sachez que Dieu les porte dans son cœur, eux aussi, et que lorsqu'on agit ainsi, c'est Dieu que l'on blesse. Lorsqu'on parle en mal d'elle, ou encore, lorsque quelqu'un est à nos côtés, qu'on l'ignore, lorsqu'on pourrait aider cette personne, en lui donnant ne serait-ce qu'un verre d'eau. Lorsque nous pourrions seulement encourager cette personne, lui venir en aide, lui parler, l'aider financièrement, l'aider alimentairement, psychologiquement. De la même façon que lorsque Dieu séparera les boucs des brebis et qu'il dira, « Lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. » Lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu. Lorsque j'étais en prison, vous m'avez visité. Lorsque j'étais malade, vous avez pris soin de moi. Je paraphrase ici. Les gens vont dire, non, mais à quel instant avons-nous fait ça, Seigneur? Il va dire, comme ça, le Seigneur va dire, à chaque fois que vous avez fait ça pour un des plus petits des vôtres, c'est à moi que vous l'avez fait. Et lorsque vous ne le faites pas, c'est à moi également que vous ne le faites pas. Eh bien, ça devient un péché. Alors, ce qui se passe ici, c'est que Dieu nous veut saints. Dieu veut que nous lavions nos robes. Vous savez, lorsque les gens disent, « Mais Seigneur, nous prions, nous allons dans les rues, nous évangélisons, nous donnons à chaque année dans des organisations, nous préparons des repas pour les pauvres, nous distribuons des trousses d'école pour les enfants qui vont à l'école, etc., etc., etc. » Ça me rappelle lorsque les disciples, certains disciples revenaient, qu'ils disaient, « Non, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des guérisons en ton nom? » Ces personnes-là mettaient d'abord leurs œuvres de l'avant, plutôt que de dire, « N'avons-nous pas plutôt prié pour le salut des âmes de telle et telle personne? N'avons-nous pas prié pour la conversion de l'autre personne, d'un tel, d'une autre personne, la guérison? N'avons-nous pas prié pour nos dirigeants, nos politiciens, au lieu de les critiquer, de les insulter, de les mépriser? » Le Seigneur dira comme ça, « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans mon royaume, dit l'Éternel, mais ceux qui m'obéissent. Ceux qui m'obéissent en mettant toute ma parole en pratique. Alors la question qu'on doit se poser maintenant, comment allons-nous être après ce confinement? Parce que avant le confinement, nos vies étaient réglées à 300 km/h. Tout allait rapidement, l'économie roulait bien, tout le monde avait du travail, la vie était belle, nous pouvions acheter tout ça qu'on avait besoin. C'était facile de se déplacer, de voyager, de se rassembler, de créer des méga rassemblements d'évangélisation, d'aller voir des spectacles, etc. Maintenant, nos priorités ont changé. Maintenant, nos priorités se regroupent autour de nous-mêmes. Et c'est pas par égoïsme. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, en arrêtant le monde, en mettant une parenthèse sur le monde, un arrêt, un stop, pour que nous ayons du temps pour nous-mêmes, pour penser à nous, à faire une introspection sur nous-mêmes. Comment est-ce que nous vivions auparavant, comment nous vivons actuellement et comment nous sommes bien maintenant malgré le fait que nous avons perdu beaucoup. Est-ce que, à part les bornés, les morons, les insensés, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous avez beaucoup moins de pression maintenant, que vous êtes beaucoup mieux, que vous êtes beaucoup plus en paix? Même que des gens ont recommencé à dire « Wow, je trouve agréable de pouvoir faire mon pain moi-même. Je trouve agréable de passer du temps en famille avec mes enfants. » Il y a des familles qui se sont redécouvertes, des enfants qui ont redécouvert leurs parents, des parents qui ont redécouvert leurs enfants. Évidemment, il y a des familles qui sont isolées. On ne peut pas voir nos parents comme on voudrait. On ne peut pas se visiter comme on voudrait. Mais avec tous les avantages que nous avons actuellement, technologiquement parlant, rien ne nous empêche de communiquer maintenant, comparativement à l'époque de Noé. Heureusement qu'ils étaient les 8 ensemble dans l'arche de Noé. Maintenant, il y a Skype, WhatsApp, FaceTime et d'autres messageries pour communiquer, d'autres technologies. Tout est possible. Tout est possible. Et rien n'empêche, même si les lieux de culte sont fermés, rien n'empêche la communication de la parole de l'Évangile. Vous avez l'exemple actuellement là. Alors ceux qui se plaignent contre les églises fermées, qu'on ne peut pas se rassembler, qu'on ne peut pas se voir, parler, eh bien, vous n'avez pas encore compris l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile, c'est pas seulement que d'aller faire des rassemblements, se rassembler, parler de toutes sortes de choses, de ce qui s'est passé dans la semaine, de partager du temps, de rire, d'aller manger au restaurant après que le culte est terminé. C'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça. L'Évangile, c'est se retrousser les manches, dire bon, on peut pas se rencontrer, d'accord, mais il y a d'autres moyens de partager l'Évangile, de parler avec les gens, de se rassembler d'une autre façon, virtuellement parlant, pour continuer à parler et à propager l'Évangile. Le lieu de culte lui-même, c'est qu'un bâtiment qui sera détruit lorsque Jésus viendra. Ces bâtiments vont tous s'écrouler. Nos priorités ont changé. Auparavant, il y a des gens qui travaillaient dans les ministères des églises, qui étaient tellement investis, sincères, qu'ils n'avaient pas de temps pour leur famille. Ils n'avaient pas de temps également pour les fidèles. Ils n'avaient pas de temps pour aider vraiment ceux qui avaient vraiment besoin d'aide. Tellement ils étaient accaparés par leur ministère. Est-ce que vous voyez un peu l'exemple? Maintenant, le temps s'est arrêté. Nous avons le temps de réfléchir, de repenser notre vie future, de revoir nos priorités, de s'ajuster à une vie meilleure, en symbiose avec le Seigneur, avec l'Éternel, avec sa parole, synchronisé avec notre âme, notre esprit et le Saint-Esprit. Comment allons-nous être? Comment allons-nous vivre après ce confinement, au retour à une certaine normalité? Allons-nous avoir changé? Ou allons-nous retourner à nos mêmes habitudes et recommencer à vivre à 300 km/h et ne pas avoir de temps pour l'Éternel? Et par conséquent, par nous-mêmes, nos familles. Notre vie va-t-elle ressembler plus aux valeurs que Jésus nous a enseignées et veut nous enseigner en ce moment même? Lorsque nous vivions à 300 km/h, vous savez, lorsque nous allons vite, rapidement sur l'autoroute, il y a des pancartes écrites chaque côté. On ne voit pas les pancartes, on n'a pas le temps de voir ce qui est écrit. On n'a pas le temps de voir les avertissements que parfois c'est écrit « danger ». Nous n'avons pas le temps. Et à un moment donné, bang! Voilà, il est trop tard. Le péché est écrit sur des pancartes dans nos vies. Et lorsque nous roulons trop rapidement, lorsque Satan remplit nos vies d'action, de plaisir, de matérialisme, de passion, lorsqu'il se développe un imaginaire virtuel autour de nous, nous n'avons plus le temps et nous n'avons même pas les yeux pour voir les pancartes, les avertissements qui nous entourent. Alors voilà pourquoi dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14, il est écrit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le miracle dont vous pourrez rendre gloire, c'est celui de votre changement, de votre humilité, de votre capacité à aimer. C'est alors seulement là que Dieu accueillera favorablement vos louanges et vos prières, et que son cœur se réjouira de vos efforts, et grande sera votre récompense. Mais entre-temps, où est-ce que je voulais aller lorsque je vous parlais de la parole tout à l'heure? Eh bien, sachez que lorsqu'on parle de péché, pour les événements actuels, et que l'on voit dans Jérémie 2, versets 13, 17 et 19, vous allez comprendre. Les gens se demandent pourquoi tout ça arrive. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel, Seigneur, Éternel des armées. Jérémie 2, versets 13, 17 et 19. Prenez en note. Lorsque vous allez dans Deutéronome, toutes les choses sont tellement claires sur ce qui se passe actuellement. Mais laissez-moi vous parler de Exode 15, verset 26 avant. Où est-ce qu'il est écrit? Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. Deutéronome est vraiment long à lire et je vais vous passer l'essentiel de la lecture. Mais tout ça se retrouve dans Deutéronome 28 et je vous invite à aller lire Deutéronome 28 au grand complet. Il est écrit, entre autres, et là je vais synthétiser, je vais condenser au chapitre 20, au verset 20, pardon. « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. » Le verset 21, « L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène. Verset 22. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Le verset 28. Verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage, jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements, ses lois qu'il te prescrit. Il dit entre autres, « L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. » L'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies, de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Le verset 66 est très lourd d'impact. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence, dans l'effroi qui remplira ton cœur. Et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Deutéronome 28, jusqu'à la fin. Vous savez, il y a toujours les gens qui, eux, ne croient pas, ne veulent rien savoir. Ils ne croient pas aux visions, ils ne croient pas aux prophéties et à l'accomplissement de celles-ci. Ézéchiel 12 nous dit, « Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet, un peu comme dans le livre de Pierre où est-ce que les gens disent, « Mais où est l'avènement du Fils de l'homme? » C'est pourquoi... Dis-leur ainsi, parle le Seigneur. L'Éternel, il dit ainsi, « Je ferai cesser ces discours moqueurs et on n'y tiendra plus en Israël. » Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs, au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Et ne sera plus différé. Oui, de vous, jour famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est pourquoi, dis-leur ainsi par l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ma parole. Les paroles que je prononcerai s'accompliront. Dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 12, versets 24, 25 et 28.
Laissez-vous parler en musique par la parole du Seigneur, par nos enseignements, nos exhortations. Adoration FM, la radio de la bénédiction.
Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Afin que quiconque croit ne périsse pas.
quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle.
Ce message que je viens de vous livrer est inspiré du Seigneur et vient de mon cœur. Ce message que je viens de vous livrer est basé sur les Écritures, sur une direction que le Seigneur m'a donnée. Mais même à cela, je vais vous citer 1 Jean 4:1 qui dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Parallèlement à ça, je vous citerai Jérémie 29, 8 et 9, qui dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Car le mensonge qu'il vous prophétise en mon nom, je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Résumé, ça veut dire que vous entendez ce message actuellement. Ce message n'est pas une prophétie. Ce message cite simplement les prophéties qui se sont déjà accomplies, qui s'accomplissent actuellement. Et je vous invite tout de même à aller lire les passages que je vous ai cités dans la Bible avec les références pour vraiment approfondir vos connaissances, pour vraiment étayer, développer la vision de ce qui arrive actuellement. Contrairement à des prophéties que certains nous balancent sur Internet en disant « Voici, il arrivera ceci, il arrivera cela », politiquement parlant, beaucoup au cours de la dernière année. Mais attention, lorsque un prophète, un pseudo-prophète, vient et vous prophétise des trucs sur Internet sans citer la parole à l'appui, moi je vous dis immédiatement de tirer la chasse d'eau, de ne pas vous laisser polluer l'esprit par ces prophéties. Tirez la chasse. Flushez, comme on dit en bon français. Parce que ces personnes sont là pour troubler l'ordre, mettre la division, créer le chaos, le désordre parmi la population, parmi le peuple, parmi la race humaine, pour polariser, pour augmenter le mensonge, le trouble, la fraude. La seule vérité, c'est Jésus, c'est la Bible, la parole. Alors, frères et sœurs bien-aimés, ce qui se passe actuellement était déjà prophétisé, prévu depuis la fondation du monde. Alors, contrairement à ce que certains faux prophètes actuellement sur Internet vous disent, lorsqu'ils vous disent « Vous allez être surpris de ce qui va arriver dans un mois. » La première chose, une prophétie ne peut pas être datée dans le temps. On ne peut pas dire en prophétie comme ça, « Dans un mois, telle chose va arriver. » Deuxièmement, lorsqu'on vous dit en plus, « Les vrais chrétiens seront surpris. » Non, le véritable chrétien n'est pas surpris, ne sera pas surpris et n'est pas surpris de ce qui arrive actuellement parce qu'il sait que ce qui arrive était prophétisé, arrive et ce qui arrive, arrivera encore et s'accomplira jusqu'à l'avènement de Jésus. Ça, c'est le véritable chrétien. Ne vous laissez pas polluer l'esprit par ces paroles, mais consultez la Bible. Lisez la Bible, priez pour ce qui se passe, plutôt que de mépriser, critiquer, chialer, pleurer, manifester, monter aux barricades, protester, et j'en passe. Parce que Dieu n'aime pas ces choses. Ceux qui pensent servir Christ en agitant, en devenant des agitateurs eux-mêmes, ne servent pas l'Éternel et ne servent pas le ministère de Dieu, mais plutôt le divise, le polarise. Et Jésus a dit, « Celui qui n'amasse pas avec moi, disperse. » Alors, plutôt que de disperser, rassemblons. Nous avons le temps de rassembler actuellement. Alors, Père éternel, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci pour les paroles que tu as mises sur mon cœur. Merci d'avoir déversé ton onction sur moi et ta grâce, Seigneur. Merci d'avoir mis les paroles dans ma bouche. Merci maintenant de toucher le cœur de ces personnes, de ces auditeurs qui sont là. Ce message est un peu long, mais il est très simple à comprendre. Et je te demande de toucher chacun d'eux qui les écoute actuellement. Je te prie d'augmenter la foi de chacun, la compréhension, l'intelligence, mais également de mettre dans l'esprit de chacun d'eux la sagesse et l'intelligence. La sagesse qui est la crainte de Dieu, l'intelligence qui est l'éloignement du péché. Et moi, je m'inclus dans ça moi-même également, Seigneur Dieu. Parce que ta parole dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Et parfois, pour nous, nous n'avons pas la faculté de comprendre vraiment la profondeur de l'iniquité. Et il y a des choses qui sont dans nos vies qui sont tellement banales que nous ne savons même plus qu'il s'agit d'iniquité. Et ces moments-là que tu as mis devant nous, cette parenthèse que tu as créée, est pour nous une occasion justement d'ouvrir les yeux sur ces iniquités, de faire un ménage, de les laver, de revoir nos priorités, de se réajuster, de se synchroniser avec notre esprit, notre âme et ton Saint-Esprit, de ne faire qu'un avec toi, Seigneur Dieu. Parce que le retour de Jésus pour bientôt, bénis chacun des auditeurs qui est là, Seigneur Dieu. Touche les cœurs. Guéris celui qui a besoin d'être guéri. Restaure celui qui a besoin d'être restauré. Relève celui qui a besoin d'être relevé. Console celui qui a besoin d'être consolé. Encourage celui qui est désespéré, triste, démoralisé, qui a besoin d'être consolé et encouragé. Fortifie celui qui est affaibli. Relève celui qui est par terre. Exhorte celui qui a besoin d'exhortation, Seigneur. Purifie celui qui a besoin d'être purifié. Sanctifie celui qui a besoin d'être sanctifié. Déverse ta grâce sur celui qui a besoin de plus de grâce. Ton onction sur celui qui a besoin de plus d'onction. À celui qui a besoin de sagesse, accorde-lui la sagesse. À celui qui a besoin d'intelligence, accorde-lui plus d'intelligence. Mais par-dessus tout, Seigneur Dieu, ouvre les yeux de tous, la conscience de chacun de nous, pour que nous puissions voir notre péché, notre condition telle qu'elle est. Tous les ravages que les années précédentes ont pu faire sur notre âme, sur notre esprit, avant que le monde s'arrête en 2020. Parce que tu as mis devant nous une grâce, une opportunité, une fenêtre, une parenthèse incroyable, une opportunité, une option merveilleuse devant nous de pouvoir enfin prendre le temps, de se repentir de nos péchés, de se détourner de nos mauvaises voies, de revenir à notre premier amour que nous avons abandonné, qui est toi, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur et Sauveur de l'humanité. À toi le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen, amen, amen et amen.
Laissez-vous parler par la parole du Seigneur en musique, par nos exhortations, nos enseignements, nos prédications ainsi que les témoignages vivants. Vous êtes à l'écoute de la radio Adoration, la radio qui ensoleille vos cœurs.